Merci monsieur. Et merci surtout de m'avoir convié à venir vous causer ce soir. Alors, si je peux me permettre de rajouter une ou deux petites choses à la présentation que vous avez faite de moi. J'ai été chargée aussi au cabinet du ministre de la révision de la loi de bioéthique, qui, vous le savez, a été adoptée dans sa première version en 1994, qui devait être révisée au bout de 5 ans. Et donc, à l'époque, il a été pris un certain retard. Nous avons commencé à y travailler en 2001 et elle a finalement été révisée en 2004, comme vous le savez. Et les parlementaires se sont déjà attaqués à la réflexion pour la re-réviser à l'horizon de 5 ans plus tard, c'est-à-dire 2009. Voilà. Donc, c'est vraiment au carrefour de ces deux réflexions-là, du droit des malades d'une part et de la bioéthique d'autre part, que j'ai été élevée à la bioéthique, je pourrais dire. Et ce que nous avons monté à l'hôpital Cochin, c'est donc quelque chose d'un peu particulier, qui est pour l'instant une structure unique en France, à ma connaissance, hein, mais peut-être au fond qu'il en existe à Bordeaux, que je ne connais pas, qui est une structure qui fait partie d'un hôpital, qui est effectivement comme un service hospitalier. C'est une unité fonctionnelle hospitalière, exactement comme il y a un service de cardiologie, de néphrologie, de soins palliatifs, qui est à la disposition transversale de l'hôpital, mais aussi des autres hôpitaux, autant qu'on puisse en tout cas répondre, et qui consiste à mettre à la disposition des gens, que ce soit les patients ou leurs proches ou les équipes soignantes, une aide et un accompagnement lorsqu'ils sont confrontés à une décision difficile au plan éthique, c'est-à-dire qui soulève un conflit de valeurs entre les uns et les autres. Que ce conflit de valeurs soit au sein de l'équipe ou qu'il soit entre les praticiens d'une part et le patient ou ceux qui parlent pour lui d'autre part. Voilà. Et donc, c'est quelque chose, effectivement, un modèle qui nous vient d'outre-Atlantique. Et c'est pour ça que je suis allée me former là-bas, pas du tout par amour spécifique des États-Unis, mais parce que c'était là qu'ils avaient développé ce modèle-là qui nous paraissait intéressant de développer en France, à la demande du ministre. Et c'est dans cette perspective que nous avons été créés à l'hôpital Cochin comme une structure expérimentale, l'idée étant de donner une chance à cette structure de voir si c'était effectivement une bonne idée ou pas, pour ensuite la multiplier si cela s'avérait pertinent. Voilà. Alors, le titre que vous m'avez donné pour cette conférence m'a interpellée. Vous avez appelé ça la prochaine éthique biomédicale. Et donc, je me suis demandé si finalement il existait une ancienne éthique biomédicale ou une ancienne bioéthique médicale. Et si il y avait une querelle entre les anciens et les modernes. Et je me suis demandé ce que vous vouliez bien pouvoir dire avec ce titre-là. Et au fond, j'aimerais organiser mon propos autour de quelques pistes successives qui seraient de dire, eh bien, peut-être qu'effectivement, il y a deux conceptions de la bioéthique, deux façons de penser l'éthique biomédicale. Mais je ne pense pas que ces deux façons soient d'une part une façon ancienne et une autre qui serait moderne. Je pense que ce sont deux façons complémentaires, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc je ne sais pas si la prochaine éthique biomédicale sera plus la façon dont on travaille l'éthique à Cochin. Je n'en suis pas sûre du tout. Par contre, ce dont je suis quasiment persuadée, c'est que la question centrale posée à l'éthique biomédicale ou la bioéthique demain va changer. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, la question bioéthique, très souvent, qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il est bien de faire ? Bien, au nom de quoi, ça je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'il est bien de faire ? C'est en gros autour de cette question-là, aujourd'hui, que se débat l'éthique biomédicale. Et je pense que demain, la question ne sera pas celle-là, moins celle-là, et qu'elle sera plutôt qu'est-ce qu'il est juste de faire, qu'est-ce qu'il est juste de financer en matière de santé et qu'est-ce qu'il est juste de faire en termes de bioéthique. Voilà. Donc, pour commencer, deux façons de penser la bioéthique. Ces deux façons, elles sont très Hein, il faut être un peu schématique pour. Donc, pardonnez-moi si je suis un peu abrupte dans mes propos, mais en gros, classiquement, on dit qu'on peut penser la bioéthique soit en termes top-down, comme disent les anglo-saxons, soit en termes bottom-up, c'est-à-dire soit des principes vers les cas, soit des cas vers les principes, soit d'un corpus de référence dont on s'est doté et qui irrigue ensuite la pratique et auquel la pratique peut se référer, soit au contraire, on regarde ce qui se passe in concreto sur le terrain et à partir de là, on remonte vers un corpus de référence. Donc, en gros, la loi de bioéthique, par exemple de 1994, ou révisée en 2004, elle est construite sur un modèle top-down. Elle est très illustrative de cette façon de penser la bioéthique. Elle dit, par exemple, que l'accès à l'assistance médicale à la procréation doit être réservé à des couples hétérosexuels en âge de procréer, vivant et marié ou vivant en combinage depuis au moins 2 ans. Donc, elle est très encadrante. Et si elle est très encadrante, elle est par le même mécanisme interdisante. Elle interdit l'accès à l'assistance médicale à la procréation à un certain nombre de situations qui sont considérées comme pas satisfaisantes, hein, au plan éthique. Et donc, c'est bien une idée de principe au départ qui organise la pratique et qui autorise et interdit un certain nombre de choses. Elle interdit la procréation médicalement assistée pour les femmes seules, les mères porteuses ou la procréation médicalement assistée pour les homosexuels, par exemple. Donc ça, c'est une première façon de penser l'éthique. La deuxième façon de la penser, c'est effectivement en se mettant sur le terrain, et c'est là que nous nous sommes installés délibérément en tant que centre d'éthique clinique à l'hôpital Cochin. Pourquoi ? Pas du tout parce que nous sommes contre une approche top-down. Hein ? Pas du tout parce que nous sommes contre une approche principiste. Bien au contraire, je vous dirai dans un instant que nous travaillons beaucoup aussi avec les principes. Mais parce que il nous semblait que c'était là qu'il existait un besoin auquel il n'était pas encore répondu en France. Et qu'il nous semblait que ce qui était intéressant, c'est de voir comment les gens se débrouillaient sur le terrain avec ces principes édictés depuis le haut. Est-ce que ces principes édictés pouvaient être appliqués sur le terrain ou est-ce qu'ils rencontraient des limites? Et est-ce que les questions qui se posaient sur le terrain transgressaient ces limites ou pas? Qu'en pensaient les praticiens confrontés à ces questions-là et les personnes, les patients confrontés à ces questions-là? Donc ce qui nous intéressait, c'était de voir au cas par cas la traduction de ces principes dans la réalité concrète des choses et, d'une certaine façon, d'être capable ainsi de faire remonter du terrain vers le politique des choses qui poseraient problème sur le terrain. Et de voir par ce même mécanisme s'il y avait des choses en train de bouger et en train d'émerger dans la société de l'ordre du changement de valeur. Après, on peut en penser ce qu'on veut, on peut le juger, ce changement de valeur, mais au moins se mettre à l'écoute de ce changement de valeur et essayer de le révéler, de le mettre en lumière. Voilà, c'est ainsi que nous nous sommes installés. Et nous avons été sollicités très régulièrement, ce qui nous a confortés dans l'idée qu'il y avait un vrai besoin et que les gens en situation avaient du mal à appliquer les principes. Quelques exemples. Par exemple, un jour, les équipes d'assistance médicale à la procréation, je prends ces exemples-là notamment, mais je parlerai d'autres, parce que c'est à partir d'un papier sur des exemples d'assistance médicale à la procréation que le professeur Cayet m'avait contacté il y a quelques mois pour venir causer ici ce soir. Alors, nous avons été sollicités un jour, donc, par une équipe d'assistance médicale à la procréation qui était elle-même sollicitée par un couple dont l'homme était gravement malade. Il était porteur d'un cancer très évolué. Et pourtant, ce couple, qui vivait ensemble depuis 10 ans, voulait, peut-être pas pourtant, mais à cause d'eux, cette rencontre avec la maladie mortelle, se dépêcher d'essayer de concevoir un enfant ensemble. Ils ne pouvaient pas, ils avaient besoin de l'aide de la médecine et ils s'adressaient à un service d'assistance médicale à la procréation. Donc, vous voyez que on peut réagir de deux façons vis-à-vis d'une demande comme celle-là. On peut se dire, finalement, qu'est-ce qui nous autorise à penser qu'il faut dire non? Parce que quand on dit non, il faut dire pourquoi on dit non. Et il faut essayer de fonder son argumentation. Et finalement, beaucoup des gens se disaient, on peut dire non au nom de l'intérêt de l'enfant à naître parce que c'est mieux pour un enfant d'avoir un père. Et nous savons qu'il y a de fortes chances que cet enfant n'ait pas de père, ou qu'en tout cas qu'il n'ait pas un père qui survive très longtemps. Et en même temps, plein de gens nous disaient, mais il y a plein de gens qui, plein d'enfants qui perdent leur père et qui rencontrent des déboires de ce type au cours de leur vie. Si cette femme avait pu faire un enfant toute seule avec son mari sans vous demander de l'aide, finalement, personne ne s'y serait opposé. Donc, est-ce que nous savons véritablement, nous, ce que c'est que le meilleur intérêt de l'enfant? Qui peut dire quel est le meilleur intérêt d'un enfant? Est-ce que c'est véritablement d'être élevé avec un père et une mère? Ou est-ce que ce qui est important, c'est de ne pas essentiellement avoir été désiré dans une histoire d'amour et de couple? Qu'est-ce qui doit l'emporter? Une autre histoire rencontrée récemment, c'est une femme qui a 45 ans et qui a rencontré l'homme avec qui elle a envie de faire sa vie à l'âge de 38 ans, donc très tardivement, après des études très prolongées et un poste et des responsabilités professionnelles extrêmement importantes. Et lorsqu'ils ont voulu mettre en route un enfant, ils se sont aperçus qu'elle avait une ménopause précoce et qu'elle ne pouvait pas faire d'enfant, et donc qu'ils avaient besoin de l'assistance médicale à la procréation. À une époque où on est très proche de l'âge de la ménopause et où les dons d'ovocytes ne sont possibles qu'avec 3 ans de délai en France compte tenu des ovocytes disponibles. Et donc ça l'a menée à un âge où elle aurait été fort close pour le don d'ovocytes. Et cette femme nous dit pourquoi ce couperet de 42 ou 43 ans, qui en décide et selon quels arguments? Et pourquoi est-ce qu'elle, elle n'aurait pas le droit d'accéder aussi à l'assistance médicale à la procréation? Alors, vous voyez que là, il y a des positions de principe qui peuvent se défendre. De dire, par exemple, qu'à cet âge-là, on a moins de chances de succès de l'assistance médicale à la procréation. Est-ce qu'on est en droit de mobiliser autant d'argent public pour un résultat peu important? Ceci dit, les différences d'efficacité ne sont pas si importantes entre 2 âges de procréation médicalement assistée. Et maintenant, on a des techniques aussi pour y remédier. Notamment, le don d'ovocytes ne présente pas ce type de contre-indication. Donc, il est très difficile de conclure sur ces affaires-là. C'est-à-dire qu'on voit bien quels sont les arguments des gens et comment ils se discutent. Et il est très difficile de trouver des arguments éthiques fondateurs, vraiment, pour dire non. Au nom de quoi? Au nom de la bienfaisance pour l'enfant, c'est difficile. Au nom de la non-autonomie des personnes, c'est difficile parce que par définition, ils sont extrêmement autonomes. Et au nom du principe de justice aujourd'hui, éventuellement, qui serait quoi? Cette personne-là a moins le droit que quelqu'un d'autre d'avoir quelque chose qui est pour elle absolument essentiel du point de vue de sa vie. Donc, 2 approches différentes de la bioéthique, mais sont-elles anciennes et modernes? Je ne crois pas. Ce sont, à mon avis, des approches qui sont complètement complémentaires et qui sont en tension, mais c'est justement cette tension qui est intéressante. Au fond, la controverse entre ces 2 approches, des principes au cas et des cas au principe, elle a toujours existé. Elle a existé de tout temps, et même chez nos anciens, les Grecs, en matière d'éthique. Hein, il y avait déjà des confrontations sur ces sujets-là, et Aristote, lui, avec sa prudence, hein, et son homme prudent, déjà expliquait qu'il n'y a pas d'éthique sans qu'elle soit adaptée au terrain et aux circonstances. La spécificité des principes est aussi quelque chose de très important, par exemple chez quelqu'un comme Cicéron. Je vous renvoie là-dessus à deux articles que nous avons écrits à plusieurs mains avec les philosophes qui travaillent avec nous, puisque nous sommes dans une équipe, comme le disait le professeur Cayet, très multidisciplinaire, qui sont parus dans Éthique et Santé récemment, l'un en septembre 2007 et l'autre en janvier 2008. Donc, cette opposition de ces deux approches-là est extrêmement ancienne. Et, à mon avis, elle est perpétuellement renouvelée. En fait, nous, notre conception des choses, c'est que l'une nourrit l'autre et réciproquement. Avoir des principes qui ne s'appliquent pas en pratique et qui ne nourrit pas la pratique n'a pas beaucoup d'intérêt. Et travailler sur des cas sans avoir de corpus de référence n'a pas de sens. Bien entendu qu'il faut des principes de référence parce qu'il faut savoir de quoi on parle et il faut essayer d'avoir un langage commun et des valeurs justement prioritaires et qu'on puisse hiérarchiser. Donc l'idée, ce n'est absolument pas de les opposer définitivement ou de dire que les uns supplantent les autres. L'idée, c'est de penser que les principes, peut-être, ne doivent pas être immuables et qu'il faut régulièrement les remettre en question et que les confronter à la pratique et à la clinique du terrain est peut-être une bonne façon de les faire vivre véritablement. Regardez par exemple ce qui s'est passé pour l'avortement. Le principe cardinal, on le sait, c'est ne pas tuer. Et pour autant, la société française a décidé, à un moment donné, que peut-être il y avait d'autres valeurs qui méritaient d'être pesées face à ce principe, même s'il reste absolument cardinal. Et les autres valeurs dont il a été décidé de tenir compte pour changer la loi dans un sens qui autorise l'interruption volontaire de grossesse, vous le savez, c'est le droit des femmes à une certaine autonomie de pensée, donc le devoir de la société à une certaine tolérance, de ne pas imposer des valeurs à des gens qui n'ont pas éventuellement les mêmes, et puis aussi, à côté de ces deux valeurs de liberté d'une part, d'autonomie d'autre part, la valeur de la sécurité sanitaire. Vous savez qu'avant, les femmes accouchaient ou avortaient plutôt dans des conditions de sécurité extrêmement précaires et insalubres et que c'est une des raisons, un des arguments qui a fait pencher la balance dans l'autre sens. Donc, pas du tout pour écorner le principe « ne pas tuer » ou pas du tout pour montrer qu'il était secondaire, mais parce qu'à un moment donné, il est apparu qu'il y avait d'autres principes qui pouvaient être mis en balance avec ce principe-là. Même chose pour la loi Leonetti récemment, en avril 2005, le 22 avril 2005, la loi Leonetti sur la fin de vie et sur la non-obstination déraisonnable, qui dit aux médecins, eh bien oui, vous pouvez, lorsque véritablement ça a été décidé collégialement et sans urgence, et après avoir pris la tâche de ce qu'aurait voulu ce patient-là à ce moment-là, vous pouvez décider d'arrêter un traitement, même si cela précipite la mort de votre patient. C'est quelque chose aujourd'hui que la société française a décidé de tolérer, d'accepter et de considérer donc comme éthique, puisqu'elle a légiféré dans ce sens-là. Donc c'est cette mise en tension permanente, à mon avis, des uns par les autres, des principes par les cas et des cas par les principes, qui permet d'avancer, de se réinterroger perpétuellement au plan éthique et éventuellement de faire bouger, évoluer le socle éthique sur lequel nous nous retrouvons tous collectivement. Alors, ça pose problème parce que, du coup, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain? Eh bien, sur le terrain, il est effectivement fort possible que les choses bougent petit à petit, et que une place plus grande soit faite à ce que les gens souhaitent pour eux-mêmes et à ce qu'ils demandent pour eux-mêmes. On a quand même effectivement l'impression qu'il y a une moins grande tolérance aujourd'hui au fait de se faire imposer des choix qui vous concernent directement par la société. Pourquoi ? Pour différentes raisons. D'une part parce que l'individu considère qu'il n'a pas à passer sous les fourches caudines des valeurs collectives et qu'il a le droit d'exprimer ce qu'il souhaite. Et nous, c'est vraiment ce que nous entendons au quotidien sur le terrain, pas sur des choses qui sont secondaires, pas sur quel antibiotique choisir ou quel antihypertenseur choisir ou je ne sais quoi, mais sur des choses qui engagent l'intimité des gens et les choses qui leur sont les plus importantes dans la vie, c'est-à-dire la conception qu'ils ont de la mort, la conception qu'ils ont de la vie, de ce que c'est qu'un enfant et de ce que c'est qu'une vie à deux et qu'une vie reliée. Pas sur des questions secondaires, donc. Et sur ces questions-là, les individus supportent aujourd'hui de plus en plus mal qu'on leur dicte ce qu'ils doivent faire et qu'on leur impose des choix qui ne sont pas conformes à leurs propres valeurs. D'autre part, parce qu'il y a une montée, me semble-t-il, des communautarismes qui est lié, ou on pourrait peut-être dire les choses différemment, parce que monter des communautarismes, c'est en général mal supporté, mais il y a une diversité de la société qu'on ne peut pas méconnaître. Il y a aujourd'hui une société qui n'est plus aussi homogène qu'autrefois, et probablement que la meilleure façon de se faire respecter par autrui, dans ses propres valeurs, c'est de respecter l'autre dans les siennes. Cette diversité culturelle, elle a une diversité aussi de valeurs. Troisième chose, parce que peut-être aujourd'hui, il y a un recul d'un certain nombre de valeurs religieuses ou de place de la religion dans ce qui anime les gens. Et lorsqu'on croit moins à la vie éternelle, et lorsqu'on croit moins à la transcendance, eh bien, on a moins envie, probablement, d'accepter de souffrir pour un meilleur avenir ultérieur. Si on ne croit pas au paradis, eh bien, on a peu envie de souffrir plus sur Terre pour gagner son paradis. C'est dit de façon extrêmement simpliste, mais il y a quelque chose comme ça aujourd'hui chez les gens que nous rencontrons qui disent au moins pas de souffrance ici, même si c'est au prix d'un raccourcissement de la vie. Et c'est quelque chose qui irrigue beaucoup des discours de nos concitoyens. Enfin, dernière hypothèse, peut-être, dernière explication, peut-être parce que, me semble-t-il, c'est le chemin de la démocratie et vers plus de démocratie que de donner plus de place aux idées de chacun. Le gouvernement par tous, eh bien, ça fait que c'est moins facile d'imposer ses propres vues ou les vues de quelques-uns sur tous. Si on va vers plus de démocratie, et si notre chemin il est vers plus de démocratie, alors il y a de fortes chances qu'il soit plus difficile d'imposer des vues de quelques-uns à l'ensemble de la population. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense qu'effectivement, ça sera de moins en moins facile de faire accepter à tous des principes suivis et entendus par chacun. Et que les principes communs seront de plus en plus difficiles à être respectés par l'ensemble de nos concitoyens. Mais ceci est problématique parce que ça remet en cause le fonctionnement même du système de santé. Le système de santé aujourd'hui en France, il est financé par la collectivité. On a un système public de financement de la santé, comme vous le savez, et auquel je pense que l'ensemble des Français est très attaché. Et au fond, la justification de tout ça, c'est de dire: nous allons payer pour tout le monde, mais si nous payons pour tout le monde, nous payons uniquement ce que nous autorisons. Hein? Nous avons un droit de regard sur ce que nous payons, sur ce que nous finançons. Et donc, nous ne finançons que ce que nous considérons bien de financer. Autrement dit, jusqu'à présent, le système était extrêmement logique. Il disait, il y a ceux qui pensent, et ceux qui pensent imposent ce qu'ils pensent à tout le monde. Et on ne finance que ce que ceux qui pensent ont décidé qu'il fallait financer. Si demain on passe à un autre endroit, c'est-à-dire que si demain on n'a plus de possibilité de dire non aux gens, ce que vous demandez n'est pas bien, et vous devez vous conformer à ce que la moralité publique décide qu'il est bien de faire, ce n'est plus la peine de vous conformer, et donc nous sommes prêts à vous autoriser ce que vous souhaitez, vous, et non pas ce que la moralité publique demande de faire, eh bien, est-ce que nous allons les financer pour autant? Autrement dit, si demain on considère qu'on n'a pas d'argument pour dire à cette femme de 45 ans qui veut un enfant alors qu'elle ne peut pas le faire sans l'aide de l'assistance médicale à la procréation et qu'elle est ménopausée, si on lui dit, ben, écoutez, finalement, peut-être que c'est difficile, effectivement, de vous imposer le diktat de la société qui dit qu'au-delà de 43 ans, c'est interdit. Est-ce que pour autant, on est prêt à financer l'accès à toutes ces techniques-là? Et si on lui dit oui à elle et qu'on dit oui aux homosexuels qui veulent avoir accès à l'AMP et qu'on dit oui aux mères porteuses, est-ce que pour autant on est prêt à les financer? Parce que si on est prêt à les financer, ça veut dire, à contrario, qu'on les cautionne éthiquement. Peut-être qu'on est prêt à dire on les tolère, chacun est libre finalement, mais on n'a pas tellement envie de les financer parce qu'on estime que c'est votre responsabilité. Nous, on n'est pas sûr que cela sera bénéfique pour vous ou bénéfique pour l'intérêt de l'enfant à venir. Et donc, après tout, prenez vos responsabilités. Donc ça, c'est une première chose. Il est possible qu'on soit obligé de séparer demain la question du financement de la question de l'accès. Sans compter que, comme vous le savez, l'argent que la communauté publique dépense pour la santé est un argent limité. Il n'est pas illimité. Aujourd'hui, nous travaillons dans des enveloppes qui sont des enveloppes fermées, dont le gouvernement essaye de contrôler la croissance au maximum. Et donc aujourd'hui, mathématiquement, si on ouvre le champ sur certaines activités, et je ne veux pas accuser particulièrement l'activité d'AMP, mais c'est vrai sur des tas d'autres sujets, eh bien, les dépenses de santé vont exploser, croître, et celui qui aura accès à des dépenses de santé de ce type, forcément, utilisera des deniers publics aux dépens d'autres, à ceux pour lesquels l'accès est moins facile. Et là, on risque de créer des situations d'injustice. Et toute la question va devenir comment on fait pour conserver une société juste? Qu'est-ce qu'il est juste de dépenser pour l'accès à l'assistance médicale à la procréation? Qu'est-ce qu'il est juste de dépenser pour d'autres choses? Et une fois de plus, le sujet de l'assistance médicale à la procréation est celui par lequel on est rentré dans cette réflexion-là, mais il est facile, si vous voulez, parce que d'une certaine façon, il engage moins le pronostic vital des gens. Mais la question est exactement la même pour des tas d'autres questions. Par exemple, nous travaillons, nous, actuellement, sur l'accès à la chirurgie cardiaque des gens de plus de 85 ans. Il y a une vraie demande pour ces techniques-là. Et en même temps, elles coûtent extrêmement cher et elles sont extrêmement lourdes de risques. De risques de complications post-opératoires, de séjour en réanimation post-opératoire et de séjour en réanimation qui parfois ne se termine pas bien et qui se complique d'infections nosocomiales, etc. Et toute la question, c'est jusqu'où on va? Aujourd'hui, la médecine est capable, sur le plan technologique, de maintenir en vie des gens extrêmement longtemps, éventuellement dans des états extrêmement médiocres en réanimation. Et donc la question, c'est jusqu'où on va? Quel est le sens de ce qu'on fait sur le plan médical et de ce que nous dépensons au plan médical? Sachant que ce que nous dépensons pour l'un, nous ne le dépenserons pas pour l'autre, si l'on regarde pas au cas par cas concrètement, mais si on regarde sur l'ensemble de la population. Donc, comment on fait pour faire une répartition juste? Et qui décide de qu'est-ce qu'il est juste de financer? Je crois vraiment que ce sont ces questions-là qui sont devant nous demain, et beaucoup plus que la question de savoir qu'est-ce qu'il est bien d'autoriser ou non, qui, à mon avis, va devenir assez vite dépassée du fait de l'évolution de notre société. Voilà, c'était juste un petit préambule pour poser le débat et pour éventuellement répondre à vos questions si vous le souhaitez.